Bonjour, il est 9h03, nous sommes le 3 octobre et vous écoutez Les Amateurs de Mac. Bonsoir, épisode 1, saison 2. Tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. On est une heure plus tôt dans les Maritimes. On a changé un petit peu l'horaire. On vous en parle dans quelques minutes. Avec moi ce soir, se joint à moi mon équipe d'élite pour répondre à vos questions, résoudre vos problèmes et recevoir vos plaintes et vos menaces de mort. Jean-François Roy qui est avec moi. Ça va bien, Jean-François?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci. J'ai chaud, mais ça va bien.
Oui, on voit ça.
Ben, j'ai essayé d'améliorer la qualité de l'image, puis je me suis dit, tiens, il manquait d'éclairage, blablabla. Et là, je me suis allumé des spots de garage dans la face, puis je coule. Probablement que je vais mettre du fond de teint pour le prochain podcast audio qu'on va faire.
T'aurais-tu prendre les spots du podcast All-Star?
Ben, c'est ceux-là, en fait. C'est exactement ceux-là qui sont dans ma cave. T'sais. La peinture est en train de décoller à dessus, là, ces colonnes. La voix que vous entendez, c'est Vincent Miller. Ça va bien, Vincent?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, je te demanderai pas si tu as passé une bonne semaine. Je sais que ça a été une semaine éprouvante, difficile, ardue. T'as été au front cette semaine comme un seul homme avec comme un soldat avec Marc-Antoine Berthiaume. Vous avez fait une job assez incroyable. On a eu des petits problèmes sur le site web. Tu veux nous en parler un peu?
Oui, ça fut assez mouvementé sur le site de Mac-Québec. En fait, on a eu des on était en présence de ce qu'on appelle des ghost scripts. Donc, des espèces de scripts cachés sur le site de Mac-Québec, dans le code même du site.
Okay.
Puis, en fait, on a dû faire un nettoyage parce que ça faisait planter le site. En fait, pas juste le site, mais le serveur au complet. On a travaillé très fort pour le réparer. Puis, en ce moment, on travaille sur une version, je dirais, clean du site. Donc, c'est sûr que dans les prochains jours, si vous voyez la page pendant peut-être une heure sur macquebec.com disant maintenant, ce qu'on fait, c'est quand on a un problème, on met une page maintenance pour vous avertir. On ne fait pas juste laisser le gros erreur de base de données, là, en gros.
Qui est très belle, la page. Je l'ai trouvée très cool. Elle donne presque l'impression qu'on travaille pour vrai en arrière avec un slider qui est toujours à 75%.
Exactement.
C'est super.
On est toujours...
Ouais, c'est comme dans le remote desktop d'Apple. Tu sais, quand tu travailles sur un ordinateur, tu vois les rideaux rouges se fermer devant l'autre ordinateur. Là, c'est...
Oui. C'est ça, on travaille, il a tombé trois fois. Donc,
en une heure.
Ouch.
Deux fois dans 24 heures, puis une troisième, le serveur était un peu trop surchargé. Mais on est en train justement de travailler là-dessus, ça devrait être correct.
Excellent. Puis une fois que ça va être fini, pas que je fais pas confiance, mais WordPress, c'est quand même assez gros comme truc. Je risque de demander à tout ce que je connais de sysadmin de faire un audit sur le site pour checker, là, puis tu sais, des malades en sécurité, puis que le kit.
Mais en fait, c'est un peu...
J'ai plus envie que ça arrive.
C'est un peu le pourquoi de la version clean. Donc, en ce moment, je suis en train de compresser le site puis de le rendre plus sécuritaire pour ensuite apporter tous nos articles puis de... Finalement, c'est le même thème de Mac-Québec. Vous n'allez pas vraiment voir de différence, mais au niveau du code à l'arrière, ça va être plus protégé. De toute façon, moi, c'est dans cette branche-là que je vais. C'est au niveau de la sécurité informatique. Donc, c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. Puis, on travaille très fort dessus. Prochain
Excellent.
Projet, ça va être le forum.
Oui. En attendant, vous êtes en train de regarder Mac-Québec avec des trous de seringue dans le bras. Fait que c'est un peu l'équivalent, en fait. Là. Donc, faut que j'arrête de faire des E. J'ai regardé le podcast qu'on a fait il y a deux semaines. On peut peut-être faire un petit retour là-dessus. On a fait la ligne. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu, tout le monde, c'est jeudi soir, le 20 septembre. On attendait en ligne, moi et Jeff. Et puis, on a reçu de la belle visite. On a réussi, malgré tout, à faire notre diffusion, même si Ça
a été ardu.
Ça a été ardu. T'as-tu busté ta bande passante, JF?
Non.
Excellent.
Moi,
j'ai eu des problèmes de bande passante. Là, j'ai appelé Rogers cette semaine, mais ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai un petit peu plus tard. Où est-ce qu'on est rendu? Donc, on explique la nouvelle formule. On a décidé de faire des petits changements aux heures de diffusion. On faisait le podcast Mac-Québec de 1h entre 21h et 22h. Et on faisait les amateurs de Mac Bonsoir de 22h aux petites heures du matin. Là, honnêtement, on faisait des très longs shows. On a décidé de renverser la vapeur et de faire le LAMD avant pour que ce soit un petit peu plus accessible à tout le monde. Donc, le LAMB va être maintenant le mercredi à 21h. Et tout de suite après, on va enregistrer le podcast Mac-Québec. Et le podcast Mac-Québec ne sera plus diffusé sur Spreecast, malheureusement. On a décidé de rendre ça un peu exclusif à ceux qui ont des produits iOS, qui vont pouvoir nous écouter dans l'application Mac-Québec mobile, MQ mobile, parce qu'on veut avoir en fait un auditoire en arrière pour se le garder en tête, qu'il y a du monde qui nous écoute. Mais on veut être un peu moins déconcentré par les commentaires des gens. Fait que, quoique les commentaires des gens nous apportaient quand même un certain truc, mais on a décidé de faire un show un petit peu plus fermé. Puis après ça, on va le diffuser en podcast. Donc, le show en direct, c'est les amateurs de Mac Bonsoir.
Exactement.
Voilà. Sinon, avez-vous des coups d'os puis des coups de dose, les gars, dernièrement?
Bon, j'ai-tu le droit de parler de politique rapidement?
Ouais, vas-y. Ça t'arrive pas souvent.
En plus, justement, en ce moment, il y a comme le débat Obama-Mitt Romney.
Ouais, c'est ça. On s'est dit, on va se mettre en même temps qu'eux autres. Aucune chance que nos auditoires descendent à nous. Là,
ouais, tu sais, pour pas que les serveurs de CNN plantent, on s'est dit, il va y avoir une masse qui va être de notre côté pour être sûr de répartir la masse en deux.
La charge. Même nous autres.
En fait, c'est un fail, mais c'est à propos de Chuck Norris. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il a fait une belle vidéo. Une vidéo avec sa femme dans son garage. Puis ça a l'air d'être... Tu sais, c'est très bien tourné, en full HD et tout.
Ouais.
Puis où il dénigre, en fait, Obama puis les démocrates.
Ouais.
Mais, tu sais, jusqu'à là, c'est correct. Bon, c'est fair play, là. On s'écœure un peu.
Il a le droit de faire un choix, là, c'est correct.
Oui, ça, c'est parfait. Par contre...
Comme Clint qui parle à son banc vide. Là.
Mais par contre, c'est le fait de faire peur, puis je pense que c'est un peu la campagne que les Républicains essaient de faire. Ça a souvent marché, maintenant ça marche de moins en moins. Mais une espèce de campagne de peur qui se fait, disant que les États-Unis vont être en danger si Obama reste ou si les États-Unis sont gouvernés par des démocrates. Puis je trouve ça plate parce qu'il y en a qui vont se faire prendre à ce jeu-là, encore, malheureusement. Donc, ce qu'il disait, c'est que, justement, les États-Unis allaient être en danger. Ils sont en danger en ce moment, qu'il fallait pas qu'il y ait Obama qui se représente. Puis ça vient un peu avec le juge du Texas qui avait dit à peu près la même affaire, qu'il allait avoir une guerre civile aux États-Unis si Obama allait être représenté. Ben, se représentait, il l'a fait, et allait redevenir président. Et donc, je trouve ça un peu plate, malheureusement. Ils font la carte, cette carte-là. Là, mais bon.
Mais pour les gens qui suivent la politique américaine, je pense que le clan démocrate n'est pas super clean dans ses attaques envers Romney. Là. C'est d'un bord puis de l'autre. Là, c'est pas propre d'un bord puis de l'autre.
Je pense que, écoute, quand j'ai écouté la première... En 2008, là, j'avais écouté un peu. Là, je suivais pas tant que ça, mais j'en suivais un peu. Puis il y avait beaucoup moins de publicité de démocrates qui, pas qui insultaient, mais qui dénigraient les républicains. Mais là, cette année, c'est vrai, des deux côtés, ça s'écœure. Puis, je veux dire, bon, il y a du jeu. Là. Mitt Romney a fait quelques erreurs que les démocrates peuvent jouer dessus. Là.
Effectivement. Les fenêtres dans un avion, ça sauve pas, Mitt. On va faire un petit retour, et j'aurais voulu avoir un petit peu plus de temps pour ça. On va faire un petit retour rapide sur le podcast All-Star que Benoît Mercier des Mystérieux Étonnants a gentiment organisé. Je dois dire en fait que je lui ai donné un petit coup de main, ce qui enlève absolument rien à Benoît, qui a tenu ça à bout de bras, autant au niveau de l'organisation, de la gestion et de l'animation de ce podcast-là, qui a réussi, en fait, Benoît, qui est un peu le Capitaine America des podcasts, et qui a réussi, en fait, à motiver, à animer tout le monde à venir dans ce podcast-là. Il a lancé l'invitation, puis il avait invité 10 podcasts, puis les 10 podcasts sont venus. Je pense qu'il n'y a personne qui a dit non, puis il y a comme FDL qui n'a pas pu venir parce que je me souviens plus quoi, il y avait un tournage ou je ne sais pas quoi, mais il voulait être là. Puis on s'est vraiment amusé. Toute l'équipe de Mac Québec était là. Vincent est descendu, Kim est descendu de Québec. Puis on a vraiment trippé là-bas. Moi, j'ai ri comme un malade. Puis j'ai rajouté un paquet de podcasts à ma liste, dont Fun Jouer Jeu et puis les gars du dernier des podcasts qui sont excellents et qui ont le même, même goût que moi pour les automobiles avec des gadgets dans les films. Numéro 1, Condorman, je suis tellement pour ça. Je ne sais pas pour vous, comment ça s'est passé?
Ça a très bien été. Moi, j'ai aimé ça, vraiment mon expérience. J'ai pu mettre un peu plus de visage sur des noms. En fait, je les avais déjà vus, bon, mais pas en personne. Donc, okay. Donc j'ai trouvé ça intéressant de leur serrer la main et les reconnaître. Donc, oui, non, ça a été un très bon show. J'ai aimé ça. Puis, c'était intéressant de... Il y avait, je pense que c'était un 15 minutes chaque ronde. Puis, il y avait quelques podcasts ensemble qui pouvaient parler. Puis ensuite, à la fin, on pouvait revenir, puis on continuait à discuter. C'était, oui, non, c'était vraiment intéressant. Puis on voyait, plus le show avançait, plus la bière était...
Faisait son effet.
Exactement, là. Plus il y avait des débats enjoués, des accolades durant le show.
Toi, JF, comment t'as trouvé ça?
Moi, j'ai trouvé ça super le fun. C'était comme Vincent disait, c'est le fun de voir les vrais visages derrière les icônes, les avatars de Twitter. Tu sais. Maxime Tremblay qui est dans le chat présentement. On salue. Toute la gang de Radio Talbot, l'analyse, fun jouer jeu, toute la gang. Tu sais, vraiment du monde que c'est bien beau l'avatar, mais tu sais, les voir en personne, c'est une autre. C'est une autre expérience, vraiment.
L'équipe des Mystérieux Étonnants, je les avais jamais vus.
Au complet?
Benoît. J'écoutais plus le podcast audio, puis j'ai pas vraiment écouté de diffusion en direct vidéo, donc j'avais pas vraiment de visage sur les noms, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est de très belles équipes.
Faut dire aussi qu'il faisait fret.
Oui, effectivement. Puis que la lumière était excellente.
Ah oui. Les spotlights. Merci, Canadian Tire.
Oui, merci, Canadian Tire. qu'est-ce que je voulais dire? Juste avant de continuer, le show est à propos de vous qui êtes à l'écoute, qui posez des questions. Et pour ce faire, en fait, si vous êtes logué sur Spreecast, en dessous de la fenêtre vidéo, vous avez un petit bouton « Submit Question ». Que vous pouvez appuyer et nous soumettre une question. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir décider quand on la met en ligne, cette question-là. Donc, c'est le but du show. On vous invite dès maintenant à nous en poser. Et cette semaine, en fait, si vous nous posez des questions, puis il faudrait en avoir une dizaine, à peu près tout le monde qui est à l'écoute en ce moment va pouvoir recevoir un code promo. On en a 10. On a des codes promo pour Good Player, qui est un lecteur de films pour d'autres. C'est un lecteur de films, c'est un player vidéo pour l'iPhone qui lit un paquet de formats. Et on a aussi des codes pour Power Player, qui est de la même compagnie. Mais qui lit du MKV sur un iPhone ou sur un iPad et qui lit d'autres formats aussi. Donc,
on vous dira pas comment aller chercher des MKV. Là.
Non.
Donc, nos bons vieux Ubuntu,
ouais,
1080p.
C'est Ubuntu.org, je pense.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Des fois, ça flotte dans la baie des pirates. Où est-ce qu'on est rendu? Pendant qu'on attend que les gens nous posent leurs questions, Vincent, tu veux peut-être nous parler du développement de l'application MQ Mobile. On sait qu'on a eu quelques ratés, en fait, au niveau de l'application cette semaine. Mais ce que tu nous apprenais, c'est que c'était pas de la faute de l'apps. C'était la faute du site.
Exactement. C'était un autre problème que le site a causé. Donc, il y avait une erreur qui était poussée dans le feed RSS dans l'application. Puis, j'ai aucune idée pourquoi, mais ça plantait l'application. Donc, il y a du monde qui arrivait en disant justement l'application était brisée, qu'il fallait faire une mise à jour. Mais en fait, c'était le site qui ne fonctionnait pas, donc vous ne pouviez pas avoir accès. On est en train de travailler sur... on est en train de... m'incluant
seulement. Ouais,
c'est ça. À temps perdu. Je suis en train de développer l'application... je peux pas dire 2.0 parce que je pense que c'était 2.0, donc 3.0 ou 2.5, là, peu importe. Puis vraiment plus belle, donc j'essaie de me concentrer sur le côté visuel de l'application. Un peu comme Tweetbot fait, une très belle job. Donc j'essaie de vraiment... Je peux pas compétitionner Tweetbot, ça c'est sûr, mais je peux essayer d'arriver à un niveau design qui se ressemble. Très intéressant, je suis très content en ce moment. Puis je travaille avec la... Pour les développeurs qui nous écoutent, là, je travaille avec l'espèce de nouvelle technologie qui est Storyboard sur Xcode, qui est en fait une espèce de version de remplacement pour les fichiers Interface Builder. Là, donc, c'est ça.
Excellent. Donc, on va commencer les questions. On en a reçu. La première question que j'amène en ligne, en fait, tu as répondu, Jeff, un petit peu dans le chat. Toi, j'imagine que tu les as utilisés. C'est à propos, en fait, on nous demande, est-ce que les nouveaux écouteurs Apple sont-ils vraiment mieux? On parle ici des AirPods qui ont été développés par Apple, qui a fait un paquet de tests là, pour trouver ils ont fait une espèce de moyenne des oreilles du monde pour faire des haut-parleurs, des headphones qui tiennent mieux dans les oreilles, qui ont un meilleur son, tout ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses, Jeff?
Ben moi, je les utilise parce que moi, j'écoute tout le temps de la musique là, quand je vais travailler puis quand je reviens. Mm-hmm. C'est vraiment... C'est le jour et la nuit. Là. À comparer des anciens... Ah ouais, c'est malade. Là. Mon chum, là, il me dit... Je vais te les prendre aujourd'hui. Je touche pas à mes écouteurs. Là. C'est comme... touche pas à ça. Là, je vais aller t'en acheter une paire à 35$. Ça me dérange pas. Là. Mais non, c'est vraiment le jour et la nuit. Là. Tu vois que le son, comme qu'on dit dans l'explication, même sur la vidéo du site d'Apple, je pense, tu vois comment l'air rentre à l'intérieur par la branche.
Sur le côté.
Oui, la petite fente ici.
Les espèces de branchies, en fait.
Oui, les branchies ici. L'air rentre là. OK. Elle rentre sur le côté ici, puis elle repasse à l'intérieur. C'est, les basses aussi ont été vraiment
améliorées.
Le jour et la nuit, je sais que c'est 35$, là, mais si vous écoutez de la musique et même des podcasts, là, je vous dis, là, c'est comme... c'est 35$. Moi, ça les mérite, je trouve.
Ce que j'ai apprécié, moi, c'est que les anciennes versions des headphones, mm-hmm. des écouteurs, le petit module, en fait, qui servait de télécommande, si on veut, là, où est-ce qu'on a les boutons plus, moins, pour monter le son, descendre le son, tout ça, et le bouton central qui sert à faire pause, play, activer, dans le cas d'un iPhone, activer Siri, il a été agrandi un petit peu, il est plus confortable, mais il est sur un des deux fils qui pend de ton oreille. Donc, il est plus près de ta bouche. Il est à peu près à la même hauteur de ta bouche. Et donc, pour le son, ça doit donner quelque chose de mieux quand tu téléphones. Là. J'imagine que ça doit
surtout
être un peu
FaceTime.
Mieux. Oui. Qu'on, je ne sais pas pour toi, moi, sérieusement, puis j'ai busté ma bande passante. Là,
mon Dieu.
Ben, en tout cas, j'ai téléphoné à Rogers, puis je ne sais pas leur méthode de calcul. Là, il y a des nouvelles cette semaine comme quoi
c'est ça,
le data Wi-Fi embarquait sur le data cellulaire. Mm-hmm. Le 1er octobre, donc deux jours, j'aurais fait 1,2 gig d'utilisation de bande passante. Je veux bien, là, mais...
c'est le fun.
Fait que j'ai dealé avec eux autres, puis je me suis négocié quelque chose à 50$ pour 10 gigs sur LTE. Donc, j'ai maintenant ça. Ben oui, mais je me suis dit, je veux pas à chaque mois, là, ils me disent, ben là, vous avez utilisé tant de plus, ça va vous coûter 80$. Arrête,
c'est sûr.
Vous êtes fous. Fait que c'est ça. Fait que FaceTime, moi, je l'utilise beaucoup plus.
Oui. C'est même qu'on se communique, moi et Alexis, quand on s'appelle là, maintenant. Le son est vraiment mieux.
Oui,
c'est bizarre. C'est ça qui est bizarre, c'est que le son est vraiment mieux sur FaceTime que sur un appel 3G normal. Du réseau Rogers.
Je sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de conversation. Tu sais, comme les premiers iPhones, mm-hmm. ils étaient sur la technologie Edge, puis tu parlais, bon. Quand le 3G est arrivé, ils ont dit ben il y a une amélioration du son parce que c'est de la voix sur 3G. Puis...
C'est une espèce de voix sur IP, là.
Ben, genre, là, mais il disait qu'il y avait une amélioration. Et là, ce qui se passe, c'est que quand tu utilises ton téléphone, c'est marqué LTE, mais dès que tu réponds à un téléphone, boum, ça bascule à 3G automatiquement. Donc là, tu es sur une conversation 3G, mais il est supposé avoir des conversations qui se font sur le LTE. Il appelle ça du HD Wave Audio, quelque chose comme ça. Et c'est du HD Voice, comme M. Boily nous le rappelle. Et ça existe en fait chez Bell et chez Virgin, donc, qui ont la dernière version. En fait, le réseau est tout neuf à eux et ils ont ça sur leur réseau. Pour Rogers et là, les autres fournisseurs, ça risque d'être d'ici avant la fin de l'année. Et cette technologie-là va faire en fait que quand on va parler à quelqu'un, ça va être à peu près comme du FM. On va vraiment entendre en fait la richesse du son comme si c'était du FM et non pas l'espèce de grichement fatigant, pas écoutable d'un téléphone cellulaire. Là. Quand tu parles entre deux iPhones en ce moment-là, ça fait vraiment dur. Ouais. Mais avec ça, quand tu vas te parler entre deux iPhones, parce que les deux vont supporter cette technologie-là, ça risque d'être pas mal mieux. Donc ça, c'est ça à surveiller. On a une question de notre ami, justement, Maxime Tremblay, à qui on va se faire un plaisir d'offrir une licence pour « Ah non, c'est vrai, t'as pas d'iPhone, tu pourras pas utiliser les promo codes
qu'on te donne. » Tu vas te faire ramasser, mon homme, il y a un MacBook Air.
Il y a un MacBook Air, mais on n'a pas de code pour des applications Mac. On a juste des codes pour des applications iOS aujourd'hui.
Je pense une des seules personnes que je connais à avoir un iPhone, un Windows Phone, je veux dire.
Oui, ben, il y avait Ben de...
Non, mon cousin.
Il a encore? OK.
Il y avait Ben de Geek qui avait, je crois, un Windows Phone, mais je pense que depuis, il est retourné à iPhone, ou en tout cas, il regardait pour aller vers d'autres choses. Bref, Maxime nous demande, quel type de solution proposez-vous pour faire un serveur de données local compatible Mac PC et accessible sur les deux simultanément? Si on installe macOS X Server sur un serveur et qu'on branche un disque dur qu'on partage via le partage de fichiers, on peut activer SMB, Samba, et à ce moment-là, en fait, ça va être disponible sur les deux plateformes. Même avec 10.8, c'est supporté, si je ne me trompe pas.
Oui, il est encore là.
Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, un NAS va très bien faire l'affaire. Ça dépend évidemment pour combien d'ordinateurs, là, mais Max nous parle à la maison. Puis un NAS qui est connecté réseau est disponible pour toutes les plateformes. Donc, peut-être un ordinateur avec une coupe de disque dur dedans. Et comme un de nos auditeurs nous le mentionne, il y a toujours FreeNAS, qui est un logiciel open source qui peut être installé sur un ordinateur, qui est une espèce de système d'exploitation qui peut faire ça. Ou sinon, il y a des produits, par exemple, comme des LACI, Too Big Network, qui permettent de faire un peu la même chose et qui sont partageables, là, Mac, PC, des produits de QNAP aussi, que j'ai essayé brièvement. Qui peuvent être de bonne qualité, et Synology aussi, qui en font des très bons. Ça, c'est du côté du NAS, du Network Array System, ça fait des petits disques durs, en fait, qui sont disponibles. Monsieur Ducharme nous en montrait un, d'ailleurs, chez eux, où est-ce qu'il y avait toutes ces versions d'Ubuntu là-dessus, qui pouvaient diffuser facilement sur un projecteur.
Mais toi, chez tes clients, c'est lequel que tu recommandes dans le NAS? Lequel tu installes le plus?
Cette question-là était bizarre. Moi, j'en déploie pas tant que ça. Que j'ai déployés, c'est les Synology, parce que j'en avais entendu bien parler, mais je suis tombé sur un QNAP récemment qu'une cliente avait, et j'ai trouvé que c'était quand même bien fait comme petit logiciel. Ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était intéressant, ça donnait pas mal de possibilités. Mais ces deux compagnies-là là, se courent après au niveau des fonctionnalités et tout ça. Ce qui est dommage dans ces appareils-là, c'est que souvent les gens vont aller chercher ce type de produit-là pour mettre une bibliothèque de musique, par exemple, de iTunes, qui va être partagée parmi tous les ordinateurs de la maison. La problématique, c'est que ça va fonctionner pour la musique, mais ça ne fonctionnera pas pour les séries télé et les films parce qu'ils sont protégés par DRM. Donc, c'est un petit peu plate à ce niveau-là. Donc, il faut peut-être se tourner vers du contenu sans DRM.
Ben oui.
Voilà. J'espère que ça répond quand même à ta question. Puis sinon, Maxime, t'hésites pas à communiquer avec nous autres, Facebook ou whatever. On va essayer de d'étioler un peu la réponse sans problème. Ça va nous faire plaisir. Ah oui, Vincent, tu as bien raison. On faut le mentionner, en fait, le Maxime qui anime le podcast L'Épée légendaire. Et honnêtement, je ne l'écoutais pas à cause du logo. qui était de la même couleur que le nôtre, tu sais, puis qui était une version 1.0 d'un logo. Mais cette semaine, ils ont...
Comme le nôtre, là.
C'est ça, comme le nôtre. Et cette semaine, ils ont frappé fort, en fait. Ils ont déployé leur nouveau logo qui a été fait par Bruno Georget de Monsieur Net. Et, d'un autre podcast rétro nouveau et Bromance longue distance. Et il est vraiment kickass.
Oui, il est beau.
Les T-shirts sont disponibles, tout ça. Puis j'étais sur la page aujourd'hui, m'en acheter un. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que, bon, j'ai quand même 2-3 affaires à payer, là, comme un iPhone 5, une console puis une caméra qui s'en vient. Des spots de lumière. Fait qu'on attend un peu, là. On était un peu enthousiaste du côté des achats. Mais ça devrait pas tarder. Puis je vous invite à aller les encourager en portant fier les couleurs de l'épée légendaire. J'ai eu, je ne sais pas si toi tu l'as eu, JF, ou il y a juste moi qui en a eu un. Frank the Tank, pendant le podcast All-Star, est venu m'offrir. Il dit, écoute, je veux pas avoir l'air insultant, mais c'est le dernier X-large qui me reste.
Non, je n'ai pas eu de ça, moi.
Oui, c'est tellement ma taille, là, il va bien m'aller et il va aller me montrer que je suis enceint.
Donc, c'est une taille de guêpe, moi. Hein.
Oui. J'ai reçu un t-shirt de l'analyse des geeks. J'étais vraiment content.
J'ai descendu d'une grandeur, en fait. J'ai tombé dans le moyen, dans le médium.
Mon Dieu!
Je vais aller passer des journaux le matin.
Oui, ben, c'est un peu à cause de ça, vraiment, pour le cardio. J'ai perdu 44 livres en tout là, depuis le début.
Bravo!
Puis j'ai pris un chandail large, puis vraiment, c'était très grand, là. C'était pas...
I drink to that.
Dit-il avec une bouteille de Pepsi dans les mains. Vide.
Même pas de diète. Bon, on va passer à l'autre question.
C'est pas bon, c'est de l'aspartame, ça colle au cerveau, ça rend calme.
Cancer.
Bon, Frank CDN qui nous pose une question. Que pensez-vous de l'article sur Forbes que Jobs aurait congédié Tim Cook à cause du cafouillage de l'app Maps? Je pense que c'est de la bullshit d'essayer de se dire qu'est-ce que Steve Jobs aurait fait. What would Steve Jobs do? Le iPhone 5 est le dernier appareil sur lequel il a donné ses inputs. Je pense que si le gars est mort, on devrait un peu respecter. De l'autre côté, c'est une situation qui est excessivement complexe, celle de Maps. On a appris, en fait, que les gens... qui avait fait l'application, l'avait fait facilement 3 semaines avant le lancement du iPhone. Ils ont réussi à prendre le data d'une seule source qui était Google, de mettre ça dans une application, mettre ça sur le téléphone. Ça fonctionnait bien, c'était simple. Il y a quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google avait demandé et n'avait pas accès à des API privés très, très profonds dans le téléphone. Et évidemment, on le sait, là, Apple était hésitant à juste titre de donner accès aussi profondément dans le téléphone. Il restait 1 an de contrat avec Google pour le faire. Puis il n'y a comme pas de bon moment pour dire on drop une application puis on en fait une autre, et c'est sûr qu'il va y avoir une comparaison qui va être faite. Maintenant, Apple...
Excuse-moi, t'interromps la parenthèse. Là. En fait, le meilleur moment, c'est quand tu changes de système, tu passes de 5 à 6, ben, je pense que c'est le meilleur moment, à moins de passer de 6 à 7, là, dans ce cas-là, si ça avait été l'année prochaine, mais passer d'une version comme ça avec une grosse bêta pendant plusieurs mois, je pense que c'était le moment qu'il fallait qu'il fasse...
Voilà. Puis, en fait, il aurait été dans une situation pareille l'année prochaine, mais encore 1 an en arrière. faut penser que toutes les recherches qu'on fait sur ces cartes-là, ils sont envoyés, sont répertoriés, Apple les reçoit et améliore le produit grâce à cette quantité massive de données-là qui est envoyée. Maintenant, Apple, s'il avait attendu un an, bien, il y aurait eu un an de moins de données à pouvoir peaufiner son produit avec ça. Donc, c'est sûr, Apple savait qu'elle allait prendre un dur coup, qu'elle allait perdre du street cred, si on veut, ou du corporate cred en faisant ça. Ça leur fait mal. D'un autre côté, je ne pense pas qu'on choisit un téléphone ou une plateforme au complet dû au logiciel de mapping qu'il y a dessus. Et je crois que Apple a bien réagi en proposant, en fait, les autres applications. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ben il n'y a pas personne qui est capable de véritablement faire une application de mapping qui est proche de celle que Google offrait. Puis ce que je sais, mais que je n'ai jamais utilisé, c'est que l'application de map est encore meilleure sur Android, là, du côté de Google, qui peaufine son produit. Maintenant, les motivations en arrière d'une application de map comme ça sont différentes, là. Je veux dire, du côté de Google, c'est pour vendre de la publicité.
Du fond de l'argent, Apple, c'est ça.
C'est ça, du fond de l'argent avec la map, c'est nécessaire dans leur cas. Alors qu'Apple, ben, je ne sais pas si à long terme, ils vont continuer à avoir la motivation autre que d'avoir un produit qui n'est pas celui de Google. Puis la dernière question, moi, que je me pose par rapport à ça, c'est si avec les données de Google, ça a pris 3 semaines aux ingénieurs de Apple pour faire une application puis la sacrer dans le téléphone, comment ça se fait qu'on va avoir une application Google Maps native téléchargeable sur le App Store seulement dans 3 mois? What the fuck?
Ça a dû prendre plus que 3 semaines, je peux pas croire. Il y a des images qui sont sorties de l'application avec les icônes où c'est exactement les mêmes, puis c'est sorti plus que 3 semaines avant que ça sorte.
Ok.
C'est peut-être
de la bullshit aussi.
Ils ont peut-être
aussi
travaillé 3 mois dessus, mais même là, je pense que dans leur tête, ça trottait depuis un bout de temps.
Mais faut dire aussi que demain, sur la page mobile de Google Maps, j'ai hâte d'essayer ça, là, Google Street View va être inclus dans la page mobile.
Oui, effectivement.
Le téléphone intelligent. Fait que, je ne sais pas à quelle heure. Là.
On vous recommande dès maintenant, en fait, d'aller, après le podcast, d'aller sur maps.google.com et le petit bouton du centre qui vous permet là, de sauvegarder, de sharer tout ça, le bouton de partage, en fait, va vous permettre de créer votre icône Google Maps sur votre téléphone, puis à partir de demain, ben, vous allez retrouver en fait quelque chose qui est à peu près équivalent. C'est sûr que c'est en HTML5, ça fonctionne probablement bien, j'imagine, mais c'est sûr que ça serait mieux une application native, comme on a vu avec Facebook là, qui faisait du HTML5 et qui finalement est allé avec une application native. Vincent, je veux juste savoir, est-ce que tu prends les noms des personnes qui nous ont posé des questions dans un petit fichier au GF?
Oui, okay. Je vois marqué, c'est beau.
Parfait. Okay. Excellent, juste pour se souvenir. D'ailleurs, on remercie tout le monde qui est en ligne à nous écouter actuellement. On est 25 dans le chat room. Ouais. Ceux qui se joignent à nous, vous avez le bouton Submit Question pour nous en soumettre. Oui, Vincent.
J'aimerais te conseiller une application que tu en as déjà, de toute façon, tu en as déjà parlé plusieurs fois. Navigon, qui est une application de GPS. Vous mettez ça dans votre auto, vous avez un petit support pour votre iPhone, puis vous le mettez dessus, puis ça fonctionne très bien. Qui offre maintenant le Street View à l'intérieur.
Les autres, ils ont pensé vite. Allô, Google, ouais, sorti, vous n'avez plus de Street View. Ouais.
Ben, quand iOS est sorti, iOS 6, pas longtemps après, 2 semaines après, ça apparaissait dessus. Probablement qu'ils travaillaient déjà dessus. Là. Donc, je trouve ça intéressant. Merci, Francis Denis Perrault. Moi aussi, j'aime mes lunettes. donc c'est ça. Navigon, qui je trouve très pratique. Puis en plus, Street View, quand tu arrives à ta destination, tu vois l'endroit. Donc, tu es sûr de savoir si tu es à bonne place ou pas. Moi, je trouve ça très pratique.
Une dernière chose, j'écoutais iMore cette semaine qui parlait. D'ailleurs, sur iMore, un des podcasts qui a été fait cette semaine par René Ritchie est celui sur son review de iOS 6 et du iPhone 5. C'est un travail massif que le gars a fait. Il y a de la photo, il passe chacun des détails. Il va dans le plus petit détail. Je me posais des questions, par exemple, à propos du Lightning, du connecteur Lightning, si interface adaptable pouvait vouloir dire qu'on pouvait éventuellement, Apple allait le mettre à jour à Thunderbolt, à un connecteur Thunderbolt. Et malheureusement, j'ai eu ma réponse. Ça ne serait pas possible. Ce que Renee Ritchie me disait, puis je parlais sur Twitter, c'est qu'il ne pense pas que le NAND flash qu'il y a à l'intérieur du iPhone soit assez rapide pour pouvoir recevoir ces doses massives-là d'informations.
Ah, je suis déçu, là.
Oui, moi aussi un petit peu. Mais ça reste à voir. Pour ceux qui parlent anglais, là, c'est vraiment du travail de maître. Là, puis c'est assez inspirant. Fait que allez voir ça. Pendant le podcast, un autre que j'ai écouté, il y avait des invités. Puis le gars disait « Flyover, c'est super cute, mais ça sert juste à Superman pour ses itinéraires. » C'est comme ça sert à personne, cette affaire-là. Fait que je trouvais ça très drôle. On a une autre question de Francis Denis Perrault. Un clavier Mac, ça fait-tu sur un ordi normal Windows? Êtes-vous capable de répondre à ça, les gars?
Oui. Oui.
C'est tout?
Ouais, non, oui, ça fonctionne.
Ça fonctionne très bien aussi, je me
suis... Oui, ça fonctionne très bien, là. Okay.
Ça fonctionne effectivement bien. Ce que je pense, par contre, c'est que...
C'est que le bouton Windows, là?
Oui.
Il n'est pas en même place.
Non, c'est le Alt ou le Commande.
C'est le Commande.
OK. Moi, ce que... Merci, Francis. On se fait complimenter sur nos... Ah, ben je pense oui. Qu'on va rester en vidéo. On se fait complimenter sur notre linge, dude.
Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les cheveux, Alexis, ils ont été coupés.
C'est un podcast Mac, dude. C'est ça que j'allais dire. Ça fonctionne.
Je reste dans le Mac.
Ça fonctionne sur Bootcamp, le clavier, mais une fois qu'on a booté sur Bootcamp, il y a comme une installation de pilotes qui se fait. Donc, je ne sais pas s'il y a possibilité peut-être d'aller chercher ces pilotes-là qui habituellement sont sur les CD d'installation. De OS X. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je ne sais plus comment c'est fait. Est-ce qu'il...
Maintenant, c'est téléchargeable.
OK. Ah oui, OK. Fait que,
maintenant, la version, quand tu veux installer Bootcamp,
ouais.
Ça télécharge un fichier.
Automatiquement.
Qui est storé quelque part. Tu dis où tu veux l'installer.
OK. Puis,
tu peux mettre une clé USB sur ton disque dur, whatever.
OK.
Puis après, quand tu es sur Windows, là, tu installes ce fichier-là.
OK. Il faudrait aller extirper à l'intérieur de tout ça juste le boot pour le clavier puis peut-être l'installer. Donc, voilà.
Le trackpad, par exemple, Vincent, je peux pas te le dire s'il fonctionne.
OK. Parce que je sais que c'était pas super quand j'avais installé Windows 7 sur mon Mac. Certaines options du trackpad, on s'entend, là, on pouvait pas vraiment faire. Moi, j'utilise les deux doigts aussi pour faire un clic droit. Puis ça fonctionnait pas très bien. Fait que je sais pas si ça s'est amélioré ou pas.
Je sais pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas installé Windows sur...
Monsieur Boily nous indique que le trackpad fonctionne, mais de manière très limitée parce qu'évidemment, il y a pas toutes les fonctionnalités, le multitouch qui est supporté dans Windows. Donc, c'est assez limité. Et Bernard nous donne le lien vers un article de Lifehacker qui nous explique qu'est-ce qui est possible de faire ou pas avec le trackpad. On y va avec une autre question. iPhone 4, le bouton partage de connexion sur la page de réglage a disparu. C'est une question de Alex Fafou. Je vous laisse répondre, les gars. Je sais que vous connaissez la réponse.
Oui, pour le bouton de partage de connexion dans le menu général, le problème, c'est que si vous faites une mise à jour de n'importe quelle version et que vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas réinitialisé vos préférences réseau, l'option n'apparaît pas. Alors, il faut aller dans Général et dans Réinitialisation en français. Je ne sais pas si c'est ça, parce que moi, je suis en anglais. réinitialiser.
C'est settings, général, réinitialiser. Ouais. Et il y a un bouton qui est tout seul au milieu qui est réinitialisation des paramètres réseau. Et c'est là-dessus qu'on clique. Votre iPhone se ferme automatiquement et il va se réouvrir quelques instants plus tard et vous devriez voir l'option réapparaître. Maintenant, pour que le partage de connexion fonctionne, chez la plupart des fournisseurs, il faut avoir un plan data d'un minimum de 1 gig. En dessous de ça, l'option n'existe pas. Elle n'est pas offerte par défaut.
Non, c'est ça, exactement.
Voilà.
Excusez, je suis en train de répondre dans le chat, puis il y a toutes ces affaires-là. Je suis en train de marquer non, toute l'affaire, là, fait que...
Pas de problème. On a une question qui provient de Twitter. C'est toi qui as amené ça?
Oui, c'est Kim qui m'a donné ça. Okay. C'est de Tardif Maurice sur Twitter. Il nous demande comment transférer le contenu d'un disque dur Time Machine vers un autre disque dur. Fait que, à ce que je comprends, la personne a un Time Machine, veut changer le disque dur interne de la Time Machine. Okay. Il y a une fonction. C'est pas une fonction, c'est plus une recette. Comment le faire exactement. Premièrement, il faut que votre Time Machine soit connecté au réseau, que vous ayez un enclosure?
Un boîtier,
OK. Il faut que vous ayez un boîtier, que vous mettez un disque dur vierge à l'intérieur, que vous branchez dans votre ordinateur et que là, de là, vous allez dans l'utilitaire disque qui se trouve dans le dossier utilitaire.
Mmh, t'es sûr? C'est pas utilitaire AirPort qui permet de faire ce changement-là?
Non, faut que tu transfères tes données avant.
OK.
Fait que dans utilitaire disque, où ce que vous avez les fonctions de faire vérifier votre disque dur, faire réparer vos permissions, formater ces choses-là, faut aller chercher le nouveau disque dur et que vous allez changer la partition de ce disque dur-là. macOS utilise le format journalier.
Oui, journalisé.
Oui, journalisé. Faut changer pour étendu. C'est tout ça en français? C'est quoi l'autre partition, là, macOS?
Journalisé, étendu, oui, c'est...
Étendu, OK. C'est ça. Fait qu'il faut reformater ce disque dur-là. En cette partition, on va mettre les notes de. C'est un peu compliqué, là. Il y a 14 points d'étape à faire. C'est un petit peu compliqué. Fait qu'une fois que. Grosso modo, c'est qu'une fois que vous avez formaté le nouveau disque dur, vous allez dans Time Machine, vous faites monter le disque dur de votre Time Machine sur votre bureau. Et vous allez de là copier tout le dossier qui s'appelle...
un petit peu de GIF. T'as débarqué de Spreecast.
Ah ouais? T'es revenu. Ah non, je suis là. Faut vous copier au complet il y a un dossier qui s'appelle backup.
Sparse Bundle.
Ouais, OK, bon, OK. Fait que vous transférez tout ça. Puis après, vous allez copie intégrale. Après avoir terminé la copie, choisir un disque. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. Vous copiez tout ce fichier-là, puis après, vous redites à Time Machine, va me chercher, va continuer à faire tes backups sur ce nouveau disque dur-là. Fait que, en grosso modo, c'est à peu près ça. Mais la recette est longue. Là. Il y a 14 points. Là. Je ne commencerai pas à vous le faire un par un. On va mettre les liens dans les notes du show. C'est vraiment très simple. Je ne veux pas décourager personne, là, mais ça se fait super bien. Là. C'est pas compliqué. Là. C'est comme faire un clone d'un disque dur, mais version facile. Là, t'sais.
OK.
Fait que c'est un lien sur le site d'Apple.
Excellent. Il nous reste après 13 minutes. On va essayer de passer les questions.
Plusieurs questions?
Oui, effectivement. On ne répondra pas...
30 personnes quand même. Hein,
excellent. Oui. Bonsoir, messieurs. J'ai un problème commun. Je me doute bien que cette question fut déjà posée par le passé. Notre famille possède un iMac, l'ordinateur principal sur lequel la bibliothèque de musique se retrouve. Les photos dans iPhoto aussi. Ma conjointe et moi possédons un iPhone. Comment faire pour que ma conjointe puisse avoir un compte autonome sur son iPhone pour acheter des applications, livres, autres? J'ai essayé de partager la bibliothèque iTunes et ce fut pénible. Des utilisateurs avec sessions différentes, c'est pénible. Autre idée, merci. En fait, c'est ça, c'est ça, ça serait de faire des utilisateurs avec des sessions différentes, ou sinon, du moins, un compte différent au niveau de ce qui est du iTunes. Donc, il faudrait être conscient que quand, bon, votre femme se connecte, elle va se déconnecter de votre compte iTunes pour se connecter sur son compte à elle. Puis là, elle peut faire ses achats, tout ça. Ça peut poser une certaine problématique. L'idée serait, comme je vous dis, d'aller avec des comptes séparés. Le système d'exploitation de Apple est fait pour ça. Il est fait pour pouvoir servir à une famille avec des comptes standards administrateurs et des comptes protégés. Donc, moi, c'est ce que je suggérerais là, de faire idéalement. Sinon, il n'y a pas vraiment de super bonne façon de gérer tout ça, à moins d'accepter que les comptes ne soient pas différents, justement, puis que les applications achetées par tous se retrouvent sur toutes les appareils. Puis à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez recevoir à chaque fois que le petit va acheter une toune de rap de Notorious B.I.G. ou whatever, ben vous allez la recevoir sur votre appareil. Fait que ça risque d'être compliqué. On dit aussi, on suggère d'acheter son propre ordinateur, mais bon, c'est une solution, là, tu sais, pitcher de l'argent, là. C'est une solution Jurassic Park.
C'est la solution, Alexis.
Ouais, c'est ça.
OK, on passe.
Oh, shiny.
Ouais, c'est ça. Ouh, on va aller. Ça vole. Il y a de l'hélium dedans, je veux ça.
Ah, c'est fini l'hélium, hein, maintenant. Fait que, passons à l'autre question.
Ouais. C'est quoi l'affaire? Ben, écoutez-vous, Big Bang Theory?
Oui.
L'espèce de gaz qu'il avait utilisé pour faire comme le contraire.
L'hélium?
Non, la voix grave là, qu'il faisait. Je pense que c'est pas vrai. C'est pas pour de vrai, mais il y avait une espèce de gaz pas. Contraire? Ça va être drôle.
Faudrait que ce soit un gaz plus lourd, puis c'est comme pas une bonne idée de respirer.
Ouais, non, c'est ça. Mais oui, effectivement, il avait pris un gaz plus lourd.
Martin Labbé, j'ai une question qui n'aura probablement aucune réponse. Je gage 100$ tellement que je suis sûr. Lors de la mise à jour de mon Mac, suspension d'activité, l'ordinateur tombe en veille normalement et au bout de 30 secondes, il s'éteint. Pourquoi et comment y remédier? Tombe en veille, puis
il s'éteint. Ouais, moi aussi, c'est sûr, c'est ça, je ferais un reset du SMC.
Oui, effectivement.
Aucun reset? De quoi aucun reset? Tu n'as fait aucun reset ou tu en as fait? J'ai été apporté une touche à Apple. Ah!
J'ai été apporté le tout chez Apple, ouais, ils ont tout fait. Donc, le reset de SMC, le reset de PRAM... Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils t'ont-tu fait un remplacement de quelque chose? C'est clairement un problème avec...
La carte mère, là.
Ouais, ou quelque chose comme ça. Sulfé, le premier mot. Sulfé hexafluoride does the opposite of helium and make your voice really low when it's inhaled. Donc, c'est du sulfure d'hexafluoride.
C'est de l'hexafluorure de soufre.
On va essayer d'en trouver. Ce serait cool de faire un podcast à souffler, à se respirer de ça.
Ouais, tu voyais
vraiment FM.
L'espèce de voix à la Star Wars. Luke, I'm your father. Là.
Ouais.
C'est un peu de ce style-là. Là. J'ai toujours voulu essayer, mais je pense que c'est très cher.
Attends, Martin Labbé nous dit qu'ils ont changé la carte mère, la carte vidéo et le power supply.
Ça va pas bien, là.
Ils ont changé l'ordinateur au complet.
Ben ouais, c'est ça.
Ils ont fait réinstaller ton système d'exploitation? J'imagine que oui, hein, quelque part.
Est-ce que c'est un backup qu'ils ont remis dedans ou c'est un...
Je l'ai fait, ça ne change rien. Est-ce que c'est une installation clean que tu as fait ou tu as réimporté un Time Machine ou un backup? Le disque dur changé, mémoire testée. Hein, voyons donc.
Clean, ben voyons.
C'est un nouvel ordinateur que tu as. Il a clairement... Change-le de prise électrique. Mais nous non plus. Là. L'ordinateur a 4 ans et demi. OK. Prends son nom. On va essayer de discuter avec lui hors podcast parce que là, c'est un petit peu...
Ouais. Est-ce que tu as un compte Twitter?
Donc, donne ça dans le chat. Jean-François va prendre ton nom. Puis on va essayer de voir ça. Martin Labbé qui nous pose une deuxième question suite à ma question précédente. Pour éviter de mauvaises solutions, ou des suppositions, l'Apple Store n'a jamais réussi à trouver le problème de mise en veille. Bonne chance pour le 100$. On va essayer de le trouver. Si jamais on trouve la solution, on compte bien à ce que tu fasses un don de 100$ au podcast. Mais on va essayer de suivre ça. Pas ça ici. Voilà. Est-ce que c'est possible de transférer sa bibliothèque iTunes sur un autre ordinateur? Tout à fait. Le fichier iTunes se retrouve en fait sur Mac ou sur PC. Je pense que c'est possible de faire maintenant des transferts entre un dossier iTunes qui est sur PC puis l'amener sur Mac ou vice-versa. Là. Il me semble que
transférer ton dossier iTunes Media vers l'autre?
Oui, oui, oui. Tu prends tout le dossier, la bibliothèque au complet, puis tu le switches, puis je pense que c'est compatible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tu vas dans le dossier musique, tu prends le dossier iTunes et tu le transfères simplement sur un autre ordinateur à la même place. Et puis, normalement, iTunes devrait s'accrocher après. Sinon, il faut que tu ouvres iTunes et dans les préférences de iTunes, dans la rubrique avancée, le dernier onglet des préférences, tu peux aller lui dire le chemin où se trouve ta nouvelle bibliothèque. Et tu pourrais même avoir plusieurs bibliothèques du même truc. D'ailleurs, ça me fait penser, la solution pour le monsieur tout à l'heure qui ne voulait pas créer plusieurs comptes, il pourrait créer plusieurs bibliothèques iTunes différentes. Et quand il ouvre iTunes, switcher, en appeler une pour lui, puis en appeler une autre pour sa femme. Puis en ouvrant iTunes et en tenant... Attends une seconde.
Ouais, c'est quoi les...
C'est quoi le... Je pense que c'est juste Alt. Oui. Si tu tiens Alt en ouvrant iTunes, il va te demander si tu veux créer une nouvelle librairie ou choisir ta librairie. Donc, tu crées une librairie pour ta femme et une pour toi. Et à partir de ce moment-là, ben, quand tu ouvres iTunes, il faut juste que tu t'assures d'être dans la bonne librairie. Tu tiens Alt tout le temps, tu démarres, tu choisis la librairie correspondante. Puis comme ça, ça devrait au moins hermétiquement tasser. Ça va dédoubler les données, mais au moins, ça va hermétiquement mettre chacun l'un à côté de l'autre.
La musique ne sera pas disponible, par contre. Il faudrait transférer, dans ce cas-là,
oui, c'est ça.
Dans les deux bibliothèques.
C'est ça. Il y a Bernard qui aurait donné des liens pour régler peut-être un petit peu le problème. After Mountain Lion, basically most functions like clicking the Apple icon are disabled about this Mac doesn't work either. Bon, faut fouiller un peu puis voir en fait si ça règle le problème de monsieur, l'information que Bernard a donnée.
Ben moi je pense pas parce que l'affaire c'est qu'il a fait une version, il a fait une installation clean. Il devrait plus rien avoir dans le playlist du doc puis dans la base de données du doc là. Je sais pas là. En tout cas, j'ai ajouté Martin sur mon Twitter. Fait qu'on va
faire un suivi
là-dessus. C'est vrai que je trouve ça drôle. Je voudrais savoir là. Fait que.
Oui, effectivement. Une dernière question avant de terminer ce show, parce qu'à 22h, on commence le podcast Mac Québec et on a une invitée aujourd'hui qui est Guillaume
Campagna.
De l'application Transit.app qui est...
Transit App. MTL Mobile aussi.
Oui, effectivement, qui sont des applications en fait qui sont recommandées par Apple justement parce que l'application Map ne supporte plus les trajets selon les transports en commun. Donc, ce sont des applications à côté qui peuvent être intéressantes à aller chercher. Donc, Requin Rouge nous demande, ma conjointe a un 3GS qui ferme tout seul quand on l'utilise un peu. Besoin de le brancher pour le réouvrir. Avez-vous déjà vu ce symptôme? Il est sur iOS 5 et non sur... Oui, c'est ça. Donc, pas la dernière version. Écoute, non. J'imagine que tu as... Oui, bien... effectivement, la batterie qui serait finie serait un symptôme. À ce moment-là, on te suggérait d'aller voir nos amis chez Zone Accro qui font de la réparation. Ils sont situés au 60 Sainte-Catherine-Est sur la rue Sainte-Catherine, tout près de Saint-Laurent. Mm-hmm. Et eux pourraient probablement faire un diagnostic au niveau de la batterie, probablement te la changer pour pas très cher. Donc, ça peut être soit la batterie. J'imagine que tu as fait les hard resets en tenant les deux boutons, les trucs comme ça. C'est probablement... oui, donc si tu as fait les hard resets. Est-ce que tu as essayé une réinstallation du système au complet, clean, tout ça? Donc, il va probablement nous répondre.
Oui, il y a tout
fait. Oui, bon. Donc, c'est. Va voir pour faire changer la batterie. Ça devrait être bien. Si tu veux le faire toi-même, comme Martin Labbé le propose, tu peux probablement trouver des batteries pour 3GS qui sont pas très chères sur le marché. Lui en a trouvé une pour 10$. Si tu préfères faire le boulot par un professionnel, il y a Zone Accro. Et la dernière chose, c'est que si c'est un 3GS qui était sous contrat, à moins que ce soit ton ancien 3GS à toi et que tu aies déjà fait ta mise à jour, il y a probablement possibilité de passer à un nouvel appareil. C'est sûr qu'il y a des sous à mettre, mais ça peut être là. Voilà, c'est ce qui fait pas mal le tour pour les amateurs. On n'a fait aucune question qu'on avait,
préparée
dans le document. Fait qu'on va pouvoir le garder puis le continuer pour la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup. Jeff, tu as pris en note pas mal les gens qui avaient posé des questions?
Oui, monsieur.
Excellent. Et vous pouvez, façon, en fait...
On peut repasser. Si jamais on manque une question, inquiétez-vous pas. Là, on peut écouter le show puis voir les questions. Fait que,
excellent. Et pour les gens qui nous ont posé des questions, pour nous faciliter la tâche, vous pouvez nous écrire au podcast. C'est au pluriel ou c'est au singulier? Podcast singulier, je crois. À commercialmacquebec.com. Donc,
je pense qu'il y a un S à la fin.
Macquebec.com, dans la section contact, il y a la section podcast.
Oui.
Voilà. Exactement.
Bernard nous dit que c'est singulier.
Singulier. Okay. Excellent. Merci, Bernard. Je suis content qu'il soit là. Podcast au singulier @macquebec.com. Écrivez-nous que vous nous avez posé une question pendant le podcast et on va se faire un plaisir de vous envoyer un code promotionnel pour une des deux applications nommées.
Question, commentaire. Si vous avez des commentaires sur le show, des idées, gênez-vous pas. Là, on est.
Envoyez tout ça à Vincent, puis Vincent, il a tellement de temps à perdre qu'il va tout arranger ça.
Ah oui, il est étudiant.
Ben oui, c'est ça. Ouais.
Sinon, messieurs, on peut vous retrouver où rapidement sur les internets?
Moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFRoy1979, Google Plus, qu'on a essayé d'y aller plus souvent, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Facebook aussi, puis c'est ça.
Excellent. Moi, on me retrouve sur un des Twitter, à DEVVMiller. Ou sinon sur mon site web vmiller.ca si vous avez des si vous avez un projet d'application à faire, application iOS. Par contre, je vous avertis, le délai est quand même assez long malheureusement là, mais gênez-vous pas, posez-moi des questions, je réponds assez rapidement. Site web où maintenant j'ai commencé à faire des infographies, puis j'aime bien ça, fait que vous irez voir ça aussi.
Excellent. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Je suis sur app.net, je ne sais pas c'est quoi mon nom, Alexis Cornelier, je pense. App.net, qui est un espèce de Twitter payant qui se veut en fait un espèce de remplacement à Twitter. Il y a une application de Tweetbot. Qui font Tweetbot ont fait une application qui s'appelle Netbot et qui est pour app.net que j'ai téléchargé aujourd'hui. Fait que je risque d'être là. Oui, ils la donnent pas, hein, mais ils savent que leur produit est de bonne qualité. Ouais. C'est assez intéressant. Donc, Netbot.
C'est la seule application?
Ben, à date, oui, c'est une des premières que je vois, moi, émerger. Là, mais il risque d'en avoir d'autres. App.net se veut un réseau social, en fait, qui va. Être plus vers l'utilisateur que vers ceux qui vont payer, c'est-à-dire les publicitaires. Donc, ça peut peut-être être intéressant, mais il risque d'avoir moins de monde, moins de bruit. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Ça peut être intéressant.
T'as-tu payé 50$?
Ouais. Oui, oui, oui. Ben, en fait, ils ont descendu ça. Là. Je pense qu'ils vont nous donner un an et demi. Là. C'est 35$. Maintenant, il y a eu un petit email cette semaine. Vous pouvez probablement me trouver sur la rue Sainte-Catherine d'ici le 24 octobre, selon les rumeurs.
Novembre, je pense.
Novembre?
Je pense que ça tombe en novembre. Là.
Ou novembre, je sais pas. Là.
On va commencer à geler. Là.
Ce serait le 17.
Si vous êtes propriétaire d'une compagnie de sleeping bag, de tente, de si Canada Goose nous écoute, on va prendre un Resolute sans problème aux couleurs de Mac Québec et on va faire
un Winnebago,
un Winnebago, n'importe quoi. Winnebago, ce serait vraiment cool. On pourrait se faire du café puis tout ça aux couleurs de Mac Québec et de
un Westphalia.
Ouais. As-tu le droit de stationner genre sur deux stationnements un Winnebago?
Non, je pense pas. Non, je pense qu'on est obligé de rester dans sa section, mais un Winnebago qui prend juste une place là, avec assez de power pour donner de l'électricité à des lampes, des ordinateurs, tout ça, puis une bonne cafetière, ça serait une super idée. Là. Donc, si vous connaissez quelqu'un... Si vous connaissez quelqu'un qui a ça, oui, mais faut y donner de l'électricité, c'est ça le problème. Sinon, on se dit à dans deux semaines pour un autre. C'est dans deux semaines ou on arrive le 30 octobre?
On est déjà le 3.
OK. Dans deux semaines, on se revoit pour un autre, les amateurs de Mac. Bonsoir.
Bye.
Salut à tout le monde. On se revoit dans quelques minutes pour ceux qui sont sur l'application MQ Mobile. Pour le podcast Mac Québec.
Live.
Voilà.
Live.
Au revoir. Merci tout le monde.
Bye.